Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. À la une, épisode ou épilogue. Pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les premiers cortèges ont démarré à Lyon, Toulouse ou encore à Rennes. Sans attendre les chiffres officiels, il y a nettement moins de monde selon nos reporters. Cet après-midi à Paris, un défilé prévu entre les Invalides et la place d'Italie. Les manifestants passeront une nouvelle fois devant la Rotonde, une brasserie devenue très symbolique comme le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Nous en parlerons tout à l'heure avec Olivier Bost. En Ukraine, évacuation des habitants de la région de Kherson. Ils sont menacés par de très fortes inondations après l'attaque d'un barrage hydroélectrique. À suivre également, vous en parliez, Pascal, l'histoire de ce salarié mis à pied car il aimait chanter, trop chanter, selon certains de ses collègues. Notre question du jour, seriez-vous prêt à monter à bord d'un avion piloté par une intelligence artificielle? Les pilotes craignent devoir laisser leur siège dans les prochaines années. Alors, y a-t-il matière à s'inquiéter? Juste après ce journal, nous serons avec le docteur Laurent Alexandre, chirurgien, neurobiologiste et énarque, qu'il vient d'écrire sur le sujet.
Ce sont des sujets évidemment passionnants, ils vous intéressent sans doute et on pourra les évoquer à partir de 13h32 pour dire dialoguer ensemble.
Et dans LVT Midi, nous recevrons Franck Lanoux pour son dictionnaire amoureux de la radio, une véritable déclaration à notre média. Toujours plus proche de chez vous, RTL, Pascal.
Dans moins de 10 minutes, effectivement, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Le soleil, il l'avait déjà, ne manquait plus que le jackpot de l'euro-million. C'est fait, aux Antilles, en couple décroche le gros lot, plus de 50 millions d'euros.
Et de la radio, évidemment, vous pourrez vous souvenir et évoquer les grandes voix d'RTL, pourquoi pas, avec Franck Lanoux. Ce sera un des sujets des auditeurs également.
Avant cela, la météo, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi?
Encore orageux au sud, mais des températures estivales.
Merci et à tout à l'heure pour une météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Une 14e journée de mobilisation et cette question, est-ce la dernière? Entre 400 et 600 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France contre la réforme des retraites. On le sait, ce ne sera pas la mobilisation la plus importante. Les syndicats ne se font guère d'illusions. À Toulouse, par exemple, le cortège a débuté à 10h. Sans attendre les chiffres officiels, il y a moins de monde que d'habitude. Patrick Tegero.
Oui, les rangs sont en effet un petit peu clairsemés par rapport au 1er mai dernier. Mais ceux qui participent sont particulièrement motivés pour continuer. Écoutez par exemple Céline, elle est salariée, non syndiquée. Elle est persuadée que cette manifestation ne sera pas la dernière.
Parce que je pense que les Français sont tenaces et voilà, on va aller jusqu'au bout. Il faut avoir de l'espoir.
Ouais, vous y croyez encore?
Pourquoi pas, oui. Sinon, on ne serait pas là.
Timothée est un jeune ingénieur aéronautique et il compte bien manifester encore.
Si le gouvernement ne bouffe pas, c'est que tout n'a pas été fait, justement. Je souhaite, moi, à titre personnel, ce soit pas la dernière. Des échos que j'ai dans les organisations syndicales, c'est pas forcément prévu que ce soit la dernière non plus. Et voilà, il y a d'autres types de manifestations que l'action syndicale.
Ila est travailleuse indépendante.
Trouver d'autres moyens d'action, c'est sûr, parce qu'on voit que les manifestations, on est toujours là, hein, mais ça n'a pas trop d'effet, donc j'espère qu'on va trouver d'autres moyens d'action. Malheureusement, avec l'été qui arrive, ça va être un peu compliqué, mais il y a plein d'autres choses à faire et on va rester mobilisés de toute façon.
Alors pour l'instant, la manifestation se poursuit. Pour une fois, sans incident majeur, il n'y a eu en effet que quelques accrochages entre Black Bloc et Force de l'Ordre.
Patrick Tegero à Toulouse pour RTL. Une dernière journée de mobilisation. En tout cas, ce n'est pas ce que souhaitent les Français, si l'on en croit notre sondage Toulouna Harris Interactive pour RTL et AEF Info. 55% des personnes interrogées estiment que les organisations syndicales devraient continuer. Les trois quarts estiment que ce sera le cas. Pour notre invitée de ce matin, Marie-Lise Léon, la secrétaire adjointe de la CFDT, qui prendra la succession de Laurent Berger fin juin. En tout cas, c'est loin d'être fini.
L'idée est de donner à voir l'énorme mobilisation du monde du travail depuis des mois et des mois, et de dire le monde du travail ne veut pas de cette réforme, ne veut pas du recul de l'âge légal à 64 ans. Écoutez le monde du travail.
Franchement, vous pensez encore pouvoir agir, faire en sorte que cette réforme elle ne s'applique pas au mois de septembre prochain ?
C'est pas juste une posture. De toute façon, si vous attendez que la CFDT dise à un moment on est d'accord avec les 64 ans, ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, je pense que le syndicalisme est en force. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette force pour pouvoir continuer d'avoir des avancées sociales.
Marie-Lise Léon, invitée d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Le pape François, 86 ans, hospitalisé à Rome pour des examens de contrôle. Il se trouve en fait dans le même établissement dans lequel il avait été admis fin mars pour une infection respiratoire, puis le 26 mai en raison d'un état fiévreux.
RTL Midi.
En Ukraine, des milliers de personnes évacuées en ce moment, même de la région de Kherson.
Oui, le barrage électrique de Kharkovka a été partiellement détruit. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Cela fait craindre l'inondation de la zone.
Oui, parce que ce barrage retient 18 millions de mètres cubes d'eau qui ont donc commencé à s'écouler en aval. Le niveau de l'eau dans la ville située juste en dessous du barrage a monté de plus de 10 mètres. Des vidéos montrent des cygnes nageant devant l'entrée du palais de la culture et la centrale électrique de Novakharkovka est désormais entièrement sous les eaux. Selon les autorités ukrainiennes, 16 000 personnes se trouvent en zone critique indirectement menacées d'inondation. 22 000 disent les Russes. Dans la ville de Kherson, à une soixantaine de kilomètres en aval, l'eau commence à monter. Écoutez Maxime Barra, un Français qui se bat aux côtés des forces ukrainiennes.
Ah bah l'eau, elle monte. On se fait réveiller à 5h du matin, branle-bas de combat. On doit évacuer toutes les zones inondables, que ce soit personnel et matériel. L'eau, elle a monté de 2,50 m. Alors pour le moment, non, c'est pas encore inondé. L'eau, elle commence à venir chatouiller, mais ça va continuer à monter. Donc normalement, si l'eau continue de monter comme c'est prédit, il y avait quand même un gros réservoir derrière, donc il y aura des quartiers qui seront complètement engloutis.
Et la population de la ville a commencé à être évacuée. Le premier train devait quitter la gare à 11h, heure de Paris.
A priori, c'est quelque chose qui ne se fait pas, même en cas de guerre, et c'est pourquoi Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.
Absolument, les Russes accusent les forces ukrainiennes d'avoir bombardé à plusieurs reprises le barrage. Kiev affirme de son côté que Moscou l'a miné et l'a fait sauter pour provoquer ces terribles inondations et freiner la prochaine contre-offensive ukrainienne.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Cette fois, c'est officiel, Karim Benzema quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Il vient de signer un contrat de 3 ans avec le club d'Al Ittihad basé à Jeddah. Le Ballon d'Or de 35 ans aura passé 14 saisons au sein du club madrilène.
RTL Roland-Garros 2023.
Autre sport, autre endroit pour nous faire vivre les matchs de ce mardi de Roland-Garros. Toutes les demi-heures, nous retrouvons Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Deux beaux duels aujourd'hui, dont un en ce moment même.
Oui, entre Karolina Muchova, 43e mondiale, et la Russe Pavlyuchenkova, finaliste ici il y a 2 ans. C'est la tchèque qui vient d'empocher la première manche, 7 jeux à 5. Après 56 minutes de jeu, elle a eu un peu de mal à conclure. Elle s'est fait débreaker alors qu'elle servait pour le set à 5-4, mais elle a tout de suite réagi. Elle fait donc la course en tête. En demi, la gagnante retrouvera soit la numéro 2 mondiale, la Bélarusse Sabalenka, soit l'épatante Elina Svitolina, l'épouse de Gaël Monfils qui a accouché il y a à peine 7 mois. Ce sera le deuxième match du jour sur le central. On aura ensuite Novak Djokovic face au Russe Karen Khachanov, le numéro 11 mondial. Et puis ce soir, le choc qui nous fait tous saliver, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz face au numéro 5, le grec Stefanos Tsitsipas.
Donc c'est en nocturne.
C'est en nocturne, pas avant 20h15.
Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure, on refait un point évidemment à 12h30 sur RTL. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Ça ne change pas, c'est toujours orageux dans le sud.
Oui, c'est vrai que les jours se ressemblent, Agnès. On a toujours du beau soleil dans l'après-midi sur toute la moitié nord, toutes les régions au nord de la Loire. Alors peut-être aller quelques gouttes du côté des Ardennes, mais ça reste très localisé ou vers les Vosges. Et sinon, pour la moitié sud, encore des averses orageuses qui seront plus marquées sur le sud-ouest. La Méditerranée reste épargnée avec un ciel sec plus ou moins nuageux. Quelques averses orageuses également sur le relief corse, tout ça sous des températures estivales. 17 cet après-midi à Cherbourg, 20 degrés au Havre, 24 à Nice. 25 à Toulon et Lille, 27 à Mulhouse, 28 à Paris comme à Perpignan, 29 degrés à Toulouse et Grenoble, 30 à Lyon et 31 degrés à Cognac.
Merci beaucoup, Penny.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et nous en allons partir dans un endroit, une terre magique, les Antilles.
Les Antilles, avec ce jackpot, on le disait, à l'euro-million, un couple de Martiniquais a remporté 53 millions d'euros. Bonjour Gauthier de Montbugard.
Bonjour à tous.
Alors c'est un record, hein, c'est du jamais vu dans les Antilles.
Absolument, en ce 5 mai, il fait bon vivre sous le soleil de Martinique. Eh oui, musique antillaise, attention les clichés. Ce couple, grand amateur de l'auto et de Romillon, se rend comme chaque semaine dans l'un de ses points de vente préférés, la station Total d'Ilon à Fort-de-France. Au comptoir, un stylo, la grille, monsieur remplit les cases 3, 8, 18, 34, 49, étoiles 3 et 7. Il ne le sait pas, mais c'est la future combinaison gagnante. Isabelle Césari de la Française des Jeux accompagne les gagnants.
Ils avaient abandonné auparavant leur combinaison qui ne semblait pas très bien fonctionner, selon leur dire. Et donc là, c'était pour la deuxième fois qu'ils jouaient cette combinaison. Et donc, évidemment, ils se sont réjouis qu'elle leur permette de remporter 53 millions d'euros.
Bien vu donc le changement de stratégie. Quelques jours après le tirage, le couple se rend compte qu'il a gagné. Mais quelle somme ? Au début, j'ai compris 53 000, en rit encore madame. On a beaucoup galéré, la roue tourne à présent. Et oui, car c'est bien 53 millions d'euros, un record absolu dans les Antilles du jamais vu. En attendant le gros chèque dans les locaux de la FDJ à Boulogne-Billancourt, eh bien ils avaient rangé le ticket sous une pile de serviettes.
J'aimerais un jour, Gauthier, que Isabelle Césari m'appelle. Que vont-ils faire de tout cet argent ?
Eh bien les deux qui souhaitent rester anonymes veulent d'abord quitter leurs emplois respectifs d'ouvriers et d'employés pour se lancer dans une multitude de projets. Le couple veut déjà offrir du travail aux habitants de Lille où le taux de chômage atteint 10%, 3 points de plus qu'en métropole.
Ils nous ont dit, nous souhaitons créer de l'emploi. Donc en fait, ils ont pour projet de créer des entreprises à la Martinique et j'ai senti beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet.
Et puis, pour vous faire rêver un petit peu plus, hein, ils veulent acheter deux maisons, voyager dans les Caraïbes, s'offrir une voiture chacun et bien sûr aider leurs proches. Et vous, Pascal, 53 millions d'euros ?
Qu'est-ce que j'en ferais ? Je pense que je ferais comme beaucoup de gens. D'abord, je continuerai de travailler et je pense que j'aiderai mes enfants à s'installer dans la vie professionnelle. Dans des métiers, pourquoi pas, de cinéma, de production, de télévision, de choses comme ça.
De quoi bien s'installer ?
Mais je pense pas que j'irai au soleil rien faire, si c'est la question.
Moi, je donnerai des œuvres caritatives.
Moi aussi, l'ensemble. Officiellement, je partage, bien sûr.
Ouais, mais je pense qu'il faut travailler. Je pense que si, effectivement, être au soleil à rien faire, tu t'ennuies vite. Mais je peux me tromper.
Bon, écoutez, on essaiera, on vous dira. Hein ? On vous dira, on essaiera.
Exactement, merci. Lancez la pub, merci.
Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Y aura-t-il toujours un pilote dans l'avion ? Eh bien, pas sûr.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Praud et Agnès Bonfillon.
Avec cette question, dans les prochaines années, y aura-t-il toujours un pilote dans l'avion ? Les syndicats de pilotes de ligne alertent sur leur crainte de voir prochainement l'intelligence artificielle prendre les commandes des appareils. Alors, est-ce que cela veut dire que l'humain, l'intelligence humaine, va peu à peu disparaître dans certains domaines ? Pour en parler avec nous, docteur Laurent Alexandre, bonjour à vous.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes chirurgien, neurobiologiste et énarque. Vous avez sorti un livre il y a 15 jours sur le sujet « La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT » aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors d'abord cette question pour vous, un avion entièrement piloté par l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction ou pas ?
Non, Airbus a montré qu'on peut déjà faire voler un avion sans pilote, y compris pendant les phases les plus difficiles que sont l'atterrissage et le décollage. Donc il est clair qu'on va pouvoir, dans les années qui viennent, se passer des pilotes. Alors, pour des raisons psychologiques, il est probable qu'on passera à un pilote, qu'on passera pas à zéro pilote, mais on a le même problème dans le domaine ferroviaire, puisque on sait qu'on peut faire rouler des trains sans pilote grâce à l'intelligence artificielle. On a déjà certaines rames de métro qui fonctionnent sans conducteur de métro. Donc on est dans une évolution de robotisation du transport qui va continuer. Et bien sûr, cela inquiète les pilotes, c'est normal, parce que tous les pilotes ne sont pas convaincus qu'ils vont pouvoir se réorienter vers un nouveau métier, notamment si on passe à un pilote, ce qui entraînerait une diminution par deux du nombre de pilotes nécessaires sur Terre.
Bon, Laurent Alexandre, je vous écoute régulièrement, je me demande ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va pas conduire des voitures, il n'y aura plus de journalistes, il n'y aura plus de pilotes, il n'y aura plus non plus de conducteurs de train. Qu'est-ce que nous allons faire En fait, si on est remplacé par l'intelligence artificielle,
ben la plupart d'entre nous, nous allons inventer des nouveaux métiers.
Oui, mais lesquels ?
Comme les gens ont inventé des nouveaux métiers lors de la révolution industrielle. N'oubliez pas que sous Napoléon, 80% des Français travaillaient dans l'agriculture ou pour l'agriculture. Et aujourd'hui, vous le savez, ça n'est plus que 3% à peine des Français.
Mais qu'est-ce que nous allons faire ?
Eh bien, nous allons développer des nouveaux métiers autour de la recherche. Nous allons inventer des nouvelles formes d'art.
Tout le monde ne peut pas être chercheur.
Mais nous devons réorganiser le système de formation et le système éducatif de manière
en fait, vous
à ce que
rien,
tout le monde...
Vous ne savez pas ce qu'on va faire. C'est ça la non, réalité, Laura Alexandre.
Pascal,
on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais en revanche, dans combien de temps les pilotes les avions sans pilote.
En 1880, on ne savait pas qu'il y aurait en 2023 des journalistes à la radio.
J'entends bien. Les avions sans pilote, c'est quand ?
Les avions sans pilote, ça pourrait être demain matin. Pour des raisons politiques, sociales, syndicales, pour ne pas faire de peine aux pilotes, on ne le fera pas immédiatement. Mais ce serait généralisable relativement rapidement aujourd'hui. Et les progrès de l'intelligence artificielle sont tellement rapides qu'on peut penser qu'à l'horizon 2030, les avions sans pilote seront très supérieurs aux avions avec pilote en termes de sécurité.
Est-ce qu'il y a certains domaines tout de même où l'intelligence humaine sera toujours supérieure à l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer complètement ? Je pense aux émotions, aux sensibilités quand même. Enfin, l'intelligence artificielle n'a pas tout ça.
Alors sur l'émotion, c'est compliqué puisqu'une étude récente a montré que ChatGPT est deux fois plus empathique que les médecins pour répondre aux patients. Donc il n'est pas sûr que notre supériorité soit sur l'empathie, la bienveillance. L'intelligence artificielle va peut-être nous dépasser dans ces domaines-là. Non, il y a un domaine où on est excellent, nous. C'est pour inventer des choses totalement nouvelles et quand il faut être multidisciplinaire. C'est pour ça que la culture générale est fondamentale aujourd'hui. Il faut donner à nos enfants une très large culture générale parce que nous sommes supérieurs à l'intelligence artificielle lorsqu'il faut associer des domaines très différents. Donc ce que disait le général de Gaulle en 1934, la culture générale est l'école du commandement, eh bien à l'ère de ChatGPT en 2023, c'est encore plus vrai. Nous devons absolument nous acharner à donner une culture générale à nos enfants, une bonne culture scientifique également, de manière à ce qu'ils soient complémentaires de l'intelligence artificielle, parce que dans les années qui viennent, les savoirs techniques vont être écrabouillés par l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas qu'on forme nos gamins à des tâches étroites qui vont très très vite être dépassées par l'intelligence artificielle.
Si vous aviez un adolescent de 15 ans aujourd'hui, vous lui diriez de faire quoi ?
Ah ben j'en ai des enfants ados. Eh bien, de se former à GPT-4. Et j'exige de mes enfants qu'ils passent au moins une heure par jour sur ChatGPT pour bien en comprendre le mécanisme.
D'accord.
Et d'autre part, comme je vous disais, beaucoup beaucoup lire, avoir une grande culture générale pour pouvoir comprendre les choses de façon transversale.
C'est entendu.
Ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire,
Laurent Alexandre,
et ne fera pas faire.
Bon, finalement, la culture générale, c'était 19e siècle, 20e siècle également. Donc pas de changement de ce point de vue-là. Je précise que le guide complet pour réussir ses études avec ChatGPT a été écrit par notre ami Martial You et son fils. Donc vous pouvez également vous procurer ce guide complet. Pardonnez-moi, cher Laurent Alexandre, d'avoir écourté cette conversation. On est un peu en retard. Il est 12h20, tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Votre vie.
Votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Nous allons aujourd'hui procéder à l'ouverture du testament de monsieur Alain Lacorde. J'ai décidé de léguer l'ensemble à celui qui m'a été le plus fidèle dans cette famille. J'ai nommé Bernard. Qui est Bernard ?
L'ouverture d'un testament, ce n'est pas seulement dans les films ou dans les sketchs. Ça ne fait pas souvent rire non plus, mais au fait... qui peut écrire un testament ? Notre invité en studio, Maître Édouard Grimond, notaire à Lille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Alors, tout d'abord, y a-t-il un âge pour faire un testament ?
Non, il n'y a pas d'âge. Tout le monde à tout âge, à condition d'être majeur et d'être capable, peut faire son testament. Donc, quelqu'un qui vient d'atteindre la majorité pourrait très bien décider déjà d'écrire ses dernières volontés, s'il a quelque chose à léguer, bien entendu, parce que faire un testament, c'est bien, et c'est pour exprimer des volontés, ses dernières volontés, donc transmettre un patrimoine à une personne ou à plusieurs personnes. Mais c'est vrai que dans les faits, vous rencontrez généralement des personnes qui avancent dans l'âge, je ne vais pas dire se rapprochent de leur fin de parcours, Mais plus on avance, plus on réfléchit à ce qu'on veut laisser, à comment on veut le laisser. Et généralement, on a des gens qui ont plutôt une quarantaine, cinquantaine, et puis au-delà, bien sûr, dans nos études, qui nous sollicitent pour un testament.
Mais ce n'est pas automatique ce qu'on doit laisser. Par exemple, des parents ne peuvent pas déshériter leurs enfants.
Tout à fait, vous avez raison. C'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Il y a une partie de votre patrimoine dont vous ne pourrez pas priver vos enfants. C'est prévu dans le code civil. Vous avez en fait une fraction qui dépend du nombre d'enfants. Si vous avez un enfant, vous ne pourrez pas le priver de la moitié de votre patrimoine. Si vous en avez deux, les deux tiers. Et puis si vous en avez trois et plus, les trois quarts.
Et est-ce que c'est à part égale entre les enfants ou est-ce que vous pouvez favoriser l'un d'entre...
Alors, c'est à part égale entre les enfants et par soustraction, la part dont vous pouvez librement disposer, ce qu'on appelle la quotité disponible, donc la moitié, un tiers et le dernier quart, eh bien, vous en disposez librement. Vous pouvez léguer à votre petite amie, à une association que vous avez envie de favoriser, ou si vous avez un petit...
Mais pas votre chien, par exemple. Aux États-Unis, on peut à son chat ou à son chien, mais en France, non.
On peut léguer à une association de protection, de défense des animaux qui prendrait soin de votre chien.
On se souvient de Karl Lagerfeld avec son chat, qui a nommé une personne pour s'en occuper.
Pour son entretien exclusif.
Exactement.
Tout à fait.
On est obligé de venir vous voir, maître, pour faire un testament, ou on peut l'écrire sur un bout de papier?
Alors, le principe, c'est une feuille de papier, un crayon, et puis vous écrivez vos dernières volontés. Donc vous pouvez très bien le faire chez vous un soir, sur un coup de tête, le glisser dans un tiroir, et puis en espérant le trouver le jour de votre décès. Mais écrire quelque chose dont on n'est pas certain qu'il produira effet, ça ne présente aucun intérêt, vous vous en doutez. Donc l'écrire dans son coin, mais surtout aller voir son notaire pour s'assurer que ce qu'on a écrit produira effet, parfaitement valable. Donc soit on va voir son notaire qui vous conseillera sur la rédaction et qui vous dira « non, ça ne va pas ». Reprenez une feuille de papier et on va le faire ensemble. Soit vous prenez rendez-vous chez votre notaire et votre notaire vous écrira un modèle. En fait, un testament, c'est du sur-mesure. Mmh. Ce n'est pas un modèle préétabli que les clients recopient. C'est vraiment de la dentelle. On fait du sur-mesure client par client en fonction de ce qu'ils souhaitent.
Mais alors, ça veut dire que si on découvre un testament, comme on le voit souvent dans les films, après la mort de quelqu'un chez lui, dans une petite boîte bien rangée, ce testament ne sera pas valide ?
Alors le testament sera valide si certaines conditions de forme sont respectées. D'accord. Mais si vous trouvez effectivement une enveloppe, ceci est mon testament rédigé à telle date, et aucune raison qu'il ne produise pas effet.
Quelles sont les choses les plus originales qu'on vous a demandé d'écrire ?
Oh, alors les choses les plus originales sont souvent ce que vous disiez tout à l'heure, les animaux, effectivement, de léguer à, vraiment l'animal de compagnie, les lubies que certains clients peuvent avoir, un certain nombre de choses qui peuvent paraître farfelues. Alors vous dire comme ça, j'avoue que j'ai rien qui me vient, qui me vient à l'esprit. Mais le rôle du notaire aussi, c'est d'expliquer à la personne que c'est bien d'avoir une idée, mais si elle est farfelue, ça ne produira pas effet. Autant lui dire la vérité plutôt que de la laisser croire qu'il se passera ce qu'elle a écrit.
Et quand vous avez ouvert l'enveloppe devant ceux qui étaient des enfants ou qui allaient justement recevoir ce testament, est-ce qu'il y a eu parfois des réactions qui vous ont...
Parfois des surprises, oui. Oui. Mais quand on accompagne son client dans la rédaction d'un testament, quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire ou dont on sait pour connaître les gens et leurs familles, ce qui est souvent le cas des notaires, dans la grande majorité des cas, il y a quelque chose qui est important, c'est la communication. De dire à la personne qui couche ses dernières volontés, ce que vous prévoyez, ça produira effet, vous pouvez. Mais prévenez vos enfants, expliquez-leur pourquoi vous le faites, pour que ça soit bien accepté le jour où ça se produira.
Ce n'est pas toujours le cas, j'imagine.
Non,
parfois,
c'est
il peut y avoir des
cas.
Petites surprises.
Tout à fait. Quand vous avez des mésententes entre enfants et que les parents ou l'un des deux souhaitent privilégier celui qui venait le voir plus souvent ou celui avec lequel il avait le plus d'affinité.
Bonne ambiance dans votre cabinet.
C'est pas évident d'aller expliquer au deuxième ou aux deux autres que c'est légal et qu'on ne peut rien y faire.
Les notaires ont peut-être un regard sur la nature humaine différent des autres professions.
C'est tout à fait. On touche l'âme humaine dans parfois des escalades plus sombres.
Bon, merci beaucoup en tout cas.
Écoutez, merci effectivement d'être venu. On va revenir dans une seconde avec
Maître Edouard Grimont, notaire à Lille, je rappelle.
Exactement, Maître Edouard Grimont. Vous repartez pour Lille ?
Non, je reste à Paris jusque demain soir.
L'info revient tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
RTL midi jusqu'à 13h.
Il est 12h31.
RTL.
RTL Midi.
Le 12-30.
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. C'est donc l'heure de votre grande édition, Agnès.
Moins de monde dans les premiers cortèges de cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le défilé parisien, lui, doit quitter les Invalides dans moins de 2 heures pour rallier la place d'Italie. Les manifestants passeront une nouvelle fois devant la rotonde, devenue un véritable symbole, comme le Fouquet sur les Champs-Élysées. Nous y reviendrons avec Olivier Bost juste après le journal. Pendant que les Français manifestent, Emmanuel Macron, lui, est à Colville-sur-Mer, en Normandie, où l'on célèbre le 79e anniversaire du débarquement. À suivre également, en Ukraine, l'évacuation des habitants de la région de Kherson se poursuit en train, en bus. Ils sont menacés par de très fortes inondations après l'attaque d'un barrage hydroélectrique. Aussitôt arrivé, aussitôt appelé, le prince Harry, qui a intenté un procès à un tabloïd britannique, est actuellement à la barre pour témoigner. Notre question du jour, je vous la rappelle, seriez-vous prêt à monter à bord d'un avion piloté par une intelligence artificielle ?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, 32-10.
Notre invité dans LVT Midi sera Franck Lanoux pour son dictionnaire amoureux de la radio. Avant cela, la météo avec vous Peggy Broche. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi ?
Toujours orageux sur toute la moitié sud.
La météo complète tout à l'heure à la fin de ce journal.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Les syndicats savent que cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ne sera pas la plus importante. Entre 400 000 et 600 000 personnes sont attendues partout en France. Exemple très concret, hein, en ce moment même à Lyon. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Devant vous, beaucoup, beaucoup de moins de monde que les journées précédentes.
Ah oui, clairement, on est très loin des très grosses mobilisations précédentes avec 20 000 à 30 000 personnes, voire davantage. Aujourd'hui, le cortège ne rassemble pas plus de 5 000 manifestants selon un premier comptage, sous un soleil de plomb, mais c'est compréhensible selon Pierre-Antoine, cheminot de la CGT.
Effectivement, on est moins nombreux, mais on reste quand même sur un mouvement qui est important et qui a pris de l'ampleur. Et pour une 14e journée de mobilisation, je pense que quand même on peut se féliciter des efforts que font les gens. C'est compliqué de perdre une journée de travail, c'est compliqué. Nous, on perd 90 euros par jour, 80 euros par jour. C'est compliqué, mais on le fait et on est déterminé pour continuer à le faire.
Mais moindre mobilisation ne signifie pas fin du mouvement, selon João Pereira Afonso, secrétaire général de la CGT du Rhône.
En réalité, dans les entreprises, nous, ce qu'on entend, c'est que les salariés sont tout aussi remontés. C'est pas parce que vous n'êtes pas en capacité de vous mettre en grève, par exemple, aujourd'hui, que pour autant vous validez la retraite à 64 ans. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler au gouvernement. C'est pas le nombre de manifestants qui fait l'opposition. 70% de la population n'est jamais descendue là, dans la rue, et pour autant, la grande majorité est contre cette réforme.
Après une demi-heure de manifestation, premiers incidents en tête de cortège où s'est regroupé un important groupe de Black Bloc ou assimilé des centaines de jeunes, très jeunes, beaucoup de lycéens, de lycéennes, comme à chaque manifestation lyonnaise.
Frédéric Perruche à Lyon en direct pour RTL.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a décidé de prendre de la hauteur.
Après le Mont-Saint-Michel hier, le chef de l'État poursuit sa tournée en Normandie. Il était ce matin à Colville-sur-Mer et il n'était pas seul, Thomas Desprez, il était accompagné de sa première ministre, une semaine après les tensions à la tête de l'exécutif.
Oui, c'était sans doute l'image politique la plus scrutée de la matinée. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne côte à côte face à la mer au pied de ce mémorial en hommage aux victimes du débarquement. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas vraiment assisté à des retrouvailles très chaleureuses. Mis à part l'accueil par la première ministre, députée du département, les deux têtes de l'exécutif ne se sont pas montrées très démonstratives. Loin de là, chacun allant saluer les porte-drapeaux dans son coin à quelques mètres l'un de l'autre. Pour tout vous dire, il aura fallu l'insistance d'un élu local pour qu'il pose côte à côte. On a connu plus complice. Hier, Emmanuel Macron a comparé leur désaccord à du clapotis. Vous savez, ce petit bruit que font parfois les vagues. Mais il en faudra un peu plus pour nous convaincre que tout est vraiment rentré dans l'ordre.
Thomas Desprez en Normandie pour RTL. On en parlait tout à l'heure, le pape François, 86 ans, a été hospitalisé à Rome ce matin. Ce serait uniquement pour des examens de contrôle. Il se trouve dans le même établissement dans lequel il avait été admis fin mars pour une infection respiratoire, puis le 26 mai en raison d'un état fiévreux.
RTL Midi.
Dans le Nord ce matin, opération solidarité avec un salarié qui aimait trop chanter.
C'est beau, ça rime. Le magasin Auchan de Louvroil a mis à pied un employé car il poussait la chansonnette tous les matins lorsqu'il prenait son poste. Et cela tapait visiblement sur le système de certains de ses collègues. La direction dit l'avoir averti plusieurs fois avant de le mettre à pied une journée.
sanctions complètement disproportionnées pour les syndicats et manifestations de soutien ce matin, Franck Hanson, avec un slogan très clair, laissez-nous chanter.
Et c'est avec du Michel Sardou que les collègues de Thomas, les caissières, les autres magasiniers ont poussé la chansonnette dans les rayons et des clients choqués par la sanction.
Je trouve ça complètement disproportionné, complètement fou. D'abord que ses collègues aient pu le dénoncer parce qu'il chantait dans les rayons en travaillant. Apparemment, on ne lui reproche rien sur sa façon de travailler. On lui reproche juste de travailler joyeux.
Pour les syndicats, cette mise à pied est la goutte de trop, une fausse note pour Gérald Villeroy, délégué central CGT Auchan.
Il a toujours chanté, au bout de 15 ans, ça gêne. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas d'ambiance sonore dans le magasin. Il chante sans qu'il y ait de clients, donc aucun gêne pour l'image de marque de l'entreprise, aucun gêne pour les collègues jusqu'à cette fameuse réunion où on nous a dit qu'il y avait deux ou trois collègues qui se plaignaient. C'est purement injuste. Et si on laisse faire ça, encore une fois, je vous le dis, c'est l'ouverture à tous les vices.
Mais que du bonheur. Quand je vois cette démonstration de solidarité, je ne peux qu'être aux
Avec 20 ans d'ancienneté, Thomas, le magasinier chanteur CUNY, est depuis en arrêt maladie, un soutien bien vu pour son épouse Priscille.
Ça va lui faire chaud au cœur aussi de savoir tout ça, lui qui, voilà, qui a le contre-coup au jour d'aujourd'hui et qui a du mal à croire à cette bêtise. C'est un bout en train.
Et ses employés ne comptent pas en rester là, avec un rappel cette fois au prud'homme, peut-être en chantant.
Même vous, vous y mettez, Hanson pour RTL.
Régis Ravanas et Franck Moulin ont appelé le studio. Ils souhaitent que nous-mêmes, nous ne chantions plus.
Il y a menace de mise à pied également.
Il est 12h37, nouveau règlement de compte à Grenoble, vraisemblablement lié au trafic de stupéfiants.
Cela s'est passé cette nuit dans le quartier sensible de la Villeneuve. Une fusillade a éclaté, 6 hommes ont été blessés. À l'heure où l'on parle, aucun pronostic vital n'est plus engagé. Mais pour les habitants, Serge Puyot, cela a été une grosse frayeur.
Oui, vers 1h du matin, les habitants de la cité de la Villeneuve ont été réveillés en sursaut par le bruit de plusieurs rafales tirées avec une arme automatique, sans doute une Kalachnikov. Un vrai traumatisme pour ce Grenoblois.
Franchement, c'était affreux. Hein. Cette nuit, c'était l'Ukraine. C'était la guerre, avec des armes lourdes.
C'était l'Ukraine.
C'est l'Ukraine, oui. Et après, il y avait les cris et tout ça. Là-bas, il y a du sang, il y a des flaques de sang. Là. En plus, c'est des jeunes.
C'est un point de deal connu ici.
Ah ben, c'est le magasin de la drogue, oui.
6 jeunes de 18 à 26 ans ont été touchés par les coups de feu, dont 3 grièvement. Des règlements de compte sanglants qui se multiplient à Grenoble. Stéphane Gianasiello, représentant du syndicat de police Alliance.
Ça tire un peu dans tous les sens. Hein. On parle souvent de Grenoble, c'est un petit Marseille. Le dernier assassinat s'est passé en pleine journée. Ça nous laisse à craindre le pire, hein. Un dommage collatéral, un passant. Il faut penser également à nos collègues qui interviennent sur place. Là, on parle d'armes lourdes, hein, d'armes de guerre. Règlement de compte entre bandes rivales, hein, qui tient le trafic.
Après la fusillade de cette nuit à la Villeneuve, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.
Serge Puyot à Grenoble pour RTL. Hier soir, c'est à Marseille qu'un homme a été tué par balle dans les quartiers nord, dans la cité du Castellas précisément, là où 2 jeunes de 21 et 23 ans ont perdu la vie au mois d'avril. Si ce nouvel homicide est lié au trafic de drogue, ce serait le 23e de l'année dans la cité phocéenne. En Ukraine, les évacuations se poursuivent dans la région de Kherson après l'attaque d'un barrage hydroélectrique. Attaque dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.
En Grande-Bretagne, cela faisait plus d'un siècle qu'un membre de la famille royale n'avait plus témoigné à la barre.
Eh bien, le prince Harry est arrivé ce matin à la haute cour de Londres et il accuse un tabloïd d'avoir piraté des messageries téléphoniques. C'est le grand jour, donc, pour le cadet du roi Charles III. Il explique en personne ce qu'il reproche au groupe de médias Marie Billon.
Oui, il a été appelé à la barre par le juge dès le début de l'audience ce matin et il est actuellement interrogé par l'avocat du groupe de presse attaqué. Mais avant ça, l'audience a commencé avec de la titraille. Le tribunal a décidé comment s'adresser aux témoins, Votre Altesse Royale la première fois et puis Prince Harry ensuite. Mais directement après, fini les courbettes. Diriez-vous que votre hostilité envers la presse est ancienne ? Oui, répond Harry. Vous avez dit que certains journalistes ont du sang sur les mains. Faites-vous référence aux auteurs des 33 articles qui font l'objet de ce procès ? Alors, c'est plus une remarque générale, admet Harry. Mais chacun de ces articles m'ont fait du mal, précise-t-il. Interrogé sur la pertinence de ces morceaux choisis, puisqu'il a avoué ne pas avoir lu tous les articles au moment de la publication, comment a-t-il pu devenir si paranoïa à cause de ça, puisqu'il ne les a pas lus ? Eh bien, c'est le principe de l'intrusion, le souci, dit-il. Et certains médias lui ont donné la réputation d'un prince playboy, d'un bonnet aussi. Harry accuse le groupe de presse surtout d'avoir mis son portable sur écoute pour ses articles, mais il avoue qu'il n'a pas eu de portable avant 1998. Or, l'un des articles a été publié en 96. Il est donc impossible que votre portable ait été mis sur écoute pour cet article. Je ne peux pas être sûr, répond le prince. Clairement, l'avocat veut aller dans les détails. Harry, lui, préfère les déclarations plus générales.
Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Après 14 saisons passées au Real Madrid, Karim Benzema s'envole pour l'Arabie Saoudite. Le ballon d'or de 35 ans vient de signer un contrat de 3 ans avec le club d'Al-Ittihad basé à Jeddah.
RTL, Roland-Garros 2023.
Deux magnifiques affiches aujourd'hui à Roland-Garros. Sébastien Rouxel, on fait le point en ce moment même. Et c'est pas simple au niveau de la prononciation.
Non, mais...
Je préfère que ce soit vous.
Pied et quatre orteils en demi-finale. La 43e mondiale a remporté le premier set 7-5. Elle sert en ce moment même pour le gain du match. Elle mène 5 jeux à 2 face à la Russe Pavlyuchenkova dans cette deuxième manche. La Russe qui court après le score depuis le début de cette rencontre. Trois beaux duels à venir, vous le disiez, sur le central. La numéro 2 mondiale, la Bélarusse Sabalenka face à Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, qui nous épate depuis le début de ce tournoi. Elle est de retour au plus haut niveau, 7 mois seulement après avoir donné naissance à leur petite fille. On aura ensuite Novak Djokovic face au Russe Karen Khachanov, le numéro 11 mondial, qui reste tout de même sur deux demi-finales consécutives en Grand Chelem. Et puis en nocturne, une affiche de rêve, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz face au numéro 5 Stefanos Tsitsipas, finaliste ici il y a 2 ans. Ils se sont affrontés 4 fois par le passé et à chaque fois, c'est l'Espagnol qui a gagné.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel. À tout à l'heure pour un nouveau point 13h. On termine par la mort d'une grande voix de la chanson brésilienne. La chanteuse Astrud Gilberto est décédée à l'âge de 83 ans. Véritable icône dans son pays, elle est connue pour avoir chanté il y a tout juste 60 ans ce très célèbre morceau.
C'est un endroit symbolique que les Parisiens connaissent et peut-être également ceux qui viennent régulièrement à Paris. La Rotonde, dans le 14e arrondissement, boulevard du Montparnasse.
Vous avez oublié la météo, je crois que c'est ce qu'il voulait nous dire Damien Béchiot.
Et c'est moi qui projette.
Je voulais vous parler de la rotonde parce qu'on parlerait de la rotonde dans une seconde avec Olivier Bost, mais évidemment avant cela, la météo bien sûr.
Avec des températures estivales encore aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que comme ça change peu, finalement, on se dit qu'on pourrait s'en passer. Mais on a des températures, c'est vrai, dignes d'un mois d'été avec 19 degrés à Caen, 23 à Beuville, 24 à Bastia, 25 degrés à Toulon, 26 à Montpellier, 27 à Agen et Rennes, 29 à Limoges ainsi qu'à Biarritz, 30 degrés à La Rochelle et jusqu'à 31 à Cognac. Alors côté ciel, ça ne change pas beaucoup, ça reste très beau sur la moitié nord avec peut-être quelques gouttes, pas grand chose, ça reste très localisé sur les Ardennes cet après-midi et les Vosges, et dans toute la moitié sud encore des averses orageuses qui seront plus marquées dans le sud-ouest et le littoral méditerranéen restera épargné avec quelques nuages.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
Dans une seconde, donc la rotonde.
On pourrait manger en terrasse s'il n'y avait pas de manifestation.
Oui, alors là, je ne vous le conseille pas. Et puis, on déjeune, comme vous le savez. Il est 12h44, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La manifestation parisienne doit partir à 14h des Invalides en direction de la place d'Italie. Le parcours passera donc une nouvelle fois devant le restaurant La Rotonde, un lieu symbolique depuis qu'Emmanuel Macron y a fêté sa victoire au premier tour en 2017 et qui a déjà été prise pour cible en avril. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour.
Vous êtes chef du service politique. Nous allons revenir avec vous pour savoir un petit peu comment des lieux comme ceux-ci sont devenus des cibles. Reportage tout d'abord sur les craintes de nouveaux débordements cet après-midi par les propriétaires de la Rotonde. Valentin Boisset leur a rendu visite.
La manifestation est dans quelques heures. Pourtant, des fourgons de police stationnent déjà depuis hier à quelques mètres de la brasserie.
Bonjour. Je vais savoir si le patron était là aujourd'hui ou pas. Par hasard.
Un ton hésitant, mais les patrons, deux frères auvergnats, sont bien là. Ils supervisent la caisse à quelques mètres de nous, mais ne souhaitent pas s'exprimer car la direction est inquiète. Ces derniers jours, des menaces et des appels injurieux arrivent sur le standard, parfois devant les yeux des habitués et des habitants de l'immeuble.
Vous êtes juste à côté de la rotonde, vous appréhendez un petit peu?
C'est l'enfer, parce que c'est fréquenté par du personnel politique, je trouve ça complètement débile.
Il y aura de la protection sur le secteur, compte tenu de ce qui s'est passé à la dernière manif.
tardif. Hein. Pourtant, c'est une brasserie qui est plus classique.
Une brasserie classique. Pourtant, le 6 avril, le store du restaurant s'est enflammé au passage des manifestants. Le personnel ne comprend pas et me précise, Jean-Luc Mélenchon vient parfois ici lui-même. Dès la mi-journée, un double cordon de CRS va se placer devant l'entrée. Il y restera toute l'après-midi.
Où l'on apprend que Jean-Luc Mélenchon se rend également à la Rotonde. Mais alors, Olivier Bost, expliquez-nous ce qu'est d'abord la Rotonde.
On va casser quelques idées reçues. La Rotonde, ce n'est pas l'endroit le plus chic ou le plus huppé de Paris. C'est plus en fait un lieu mythique du quartier Montparnasse, fréquenté par Cocteau, Apollinaire ou Hemingway, qu'un lieu véritablement bling-bling. En fait, c'est une brasserie parisienne tenue par des Auvergnats, de véritables Auvergnats. Et vous êtes quand même à Paris, donc l'œuf bio, il est bio forcément, mayonnaise est à 8 euros. 50, c'est plus cher que dans un bouillon. Mais la Rotonde, ce n'est pas un étoilé non plus. Les entrées vont jusqu'à 25 euros et puis les plats sont entre 25 et 50 euros. Pareil pour le cadre, c'est confortable, c'est beau, façon brasserie. Et il y a un étage si vous voulez un peu plus de calme ou de discrétion. Mais pas de quoi crier en fait à la luxure ou à la débauche.
Et pourquoi ce lieu est devenu une cible, un symbole pour les opposants d'Emmanuel Macron ?
C'est à cause d'une soirée, très précise. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron y a réuni tous ses amis, son équipe de campagne, mais aussi quelques personnalités. Et comme ça donne sur le boulevard de Montparnasse, les caméras de toutes les chaînes de télé ont diffusé la petite sauterie en direct. Et ce qui a alors en fait choqué, c'est l'idée surtout de fêter le premier tour comme une victoire forcément acquise à ce moment-là. Être face à Marine Le Pen voulait dire qu'il avait déjà gagné. Emmanuel Macron, en fait, devenait à ce moment-là Jupiter, avant de parcourir seul, majestueusement, pompeusement, diront certains, 15 jours plus tard, la cour du Louvre. D'ailleurs, ce soir du premier tour, Emmanuel Macron, pressé de questions par les reporters sur place, s'était défendu à 2h du matin en sortant.
Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie.
Mon plaisir, voilà une formule quasi royale. C'est donc moins le côté bling-bling qu'une forme de condescendance et de mépris qui a marqué les esprits. C'est ce soir-là que la Rotonde a été associée à jamais à Emmanuel Macron et à un pouvoir ou un début de pouvoir arrogant. D'ailleurs, le lendemain, la fête est jugée indécente par un certain Gérald Darmanin. Il faisait encore partie ce soir-là des Républicains, soutien de François Fillon. Vous connaissez la suite.
Et la victime collatérale, la Rotonde, c'est bête d'attaquer la Rotonde parce que ce sont des gens qui y travaillent, ce sont des propriétaires. Franchement, c'est pas facile pour eux parce que dans ces cas-là, faut réparer la Rotonde, faut la reconstruire. Elle est attaquée, il y a des problèmes de sécurité.
C'est imbécile comme exactement ce qui est arrivé aux Fouquettes. C'est une histoire d'ailleurs qui est
un lieu qui a symbolisé
exactement qui est un peu parallèle. Là, on était au second tour de l'élection présidentielle en 2007. Nicolas Sarkozy lui réunit ses soutiens les plus proches sur les Champs-Élysées jusqu'à tard dans la nuit. Avant que le nouvel élu, fraîchement élu, part ensuite quelques jours sur le yacht du multimilliardaire Vincent Bolloré. Et alors là, ces images, le Fouquet, le yacht, illustreront la toute première décision de Nicolas Sarkozy. En fait, le bouclier fiscal, le Fouquet va devenir le symbole de ça. Le bouclier fiscal, c'était pour les grandes fortunes. Et l'opposition réussira à lui coller l'étiquette de président des riches, une étiquette que lui collera l'opposition et qui sera tenace, exactement comme pour Emmanuel Macron. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Lui, il avait supprimé l'ISF et puis mis en place la flat tax. En fait, à 10 ans d'intervalle, l'histoire, quelque part, s'est un peu répétée. Et ces deux lieux, la Rotonde et le Fouquet's, sont devenus, malgré eux et depuis, les cibles des manifestants.
Alors, ça n'était jamais arrivé avant. Enfin, on n'a pas souvenir d'autres présidents, d'autres lieux.
Non, il y a l'Élysée, avec les Gilets jaunes, bien évidemment, l'Élysée, une tentative d'approcher à l'Élysée. Après, il faut remonter largement dans l'histoire pour avoir des lieux de pouvoir attaqués comme l'Assemblée nationale. Mais des lieux qui ne soient pas des lieux de pouvoir et attaqués comme ça, effectivement, c'est assez inédit.
Le prochain président de la République, en tout cas, s'il téléphone à un restaurant le soir de son élection pour réserver, je ne suis pas sûr qu'il soit bien accepté.
Oui, ça t'irait dire non.
Il est 12h52, on va parler radio avec Franck Lanoux et bien évidemment avec Bernard Lehu. La radio avec le dictionnaire amoureux de la radio, édité chez Plon. À tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL midi jusqu'à 13h. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Et la culture, évidemment, qui se met à table tous les jours dans RTL Midi. Nous accueillons avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour Pascal.
Franck Lanoue, je l'ai dit, auteur du dictionnaire amoureux de la radio. Bonjour. Bonjour Franck, homme de radio, vous l'êtes vous-même. Vous avez notamment dirigé RMC. Pendant 15 ans, c'est une chaîne qui existe, hein, je crois, RMC. Et qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Peut-être à la radio?
Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui la, fabriquent, parce que c'est tellement humain comme travail. C'est, y a pas de filtre, on est en direct, c'est assez simple à produire. C'est que de la créativité, que de l'idée, que de la culture, que de la spontanéité, que des personnalités. Ça, c'est très bon. Et puis ensuite, bien évidemment, ce sont tous ceux qui nous écoutent. Moi, à chaque fois que j'ai organisé des sorties d'antenne, eh bien, j'y allais. J'allais voir, j'allais discuter avec les, auditeurs. Et même souvent, j'ai eu un problème avec ce mot auditeur, parce que je considère que les gens font vraiment la radio avec nous. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils la font vraiment avec nous. Et c'est cette équation 100% humaine, qui est formidable avec la radio.
Bernard, je me tourne vers vous. Il faut préciser que ce dictionnaire amoureux de la radio est unique en son genre.
Ah oui, vous avez fait fort, Franck Lanoue, puisque vous avez, pour la première fois, c'est un ouvrage collectif, vous avez réuni 120 contributeurs, des journalistes, des animateurs, des patrons, tous et toutes des grandes voix de la radio, et justement, la voix. Mais c'est ça qui fait toute la spécificité de la radio.
C'est-à-dire que la voix, elle ne triche pas. Tout passe. Là, les gens, en ce moment, moi, j'ai jamais fait autant d'antennes que depuis 10 jours, alors que j'ai fait de la radio pendant 40 ans. Les gens entendent forcément la fébrilité, et en même temps, ils doivent entendre que, ben voilà, je suis passionné par le sujet. J'en ai fait pendant 40 ans. J'ai encadré des équipes, lancé des radios en province, à l'étranger, et donc ça, je pense que les gens quelque part, ils doivent entendre dans notre entretien, dans notre discussion maintenant, comment, ça me passionne et comment j'étais trop fier et trop heureux de rencontrer toutes ces personnalités, de les réunir. Elles m'ont dit oui, et ça, c'est moi, je suis encore fier, presque étonné d'être parvenu à ça.
Il y a quelque chose qui est très frappant avec l'auditeur de radio, il ne zappe pas. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, ils écoutent quasiment qu'RTL, alors qu'on zappe en télévision. Mais ça, c'est tout à fait unique, on pourrait imaginer que les gens écoutent...
Historiquement, c'est un peu comme les voitures. Vous savez, il y avait des familles Peugeot, oui. Des familles Citroën, et il y a des familles RTL. Oui. Il y a des, voilà. Et ça, c'est très fort parce qu'il y a un attachement. C'est aussi sûrement l'absence d'image qui fait que le son, les voix, les personnalités touchent votre cœur. Et donc, vous êtes dans la famille. Et même parfois, vous savez, quand les radios changent parfois d'animateur, et bien l'auditeur reste parce qu'il se dit non, ça, il ne me plaît pas, celui-là, mais c'est ma radio. Ils vont changer avant que moi je change.
Vous avez des noms peut-être à nous suggérer?
Alors, parmi les contributeurs, je vais le dire parce que Pascal Praud ne le dira pas lui-même, il est trop modeste, il y a donc Pascal Praud qui signe l'entrée dans ce dictionnaire.
C'est pas forcément ce qui me caractérise toujours.
C'était un peu d'humour.
J'ai le droit de dire que c'est le premier mot écrit que j'ai reçu.
C'est vrai?
Et absolument.
Donc,
c'est le premier.
À l'entrée,
Pascal
micro...
porte le numéro 001 dans mon,
ah bon
dans mon tableau, absolument.
Ben oui, mais
donc,
non,
moi, très très vite.
Alors Pascal, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui comprennent bien,
micro, j'ai
l'entrée, micro.
Oui.
Je vous cite, hein, les micros ont une âme. Ils roucoulent ou sanglotent, ils sont la voix de leur maître.
Parce que c'est beau.
Non, mais je, bon. Bon, alors, je vais vous dire, comme on est un peu en retard, Bernard va rester et vous allez rester. Parce qu'il est 12h59 et il faut qu'on laisse passer
rende,
une... Non, pas qu'on rende, il faut qu'on laisse passer une pause. Mais restez avec nous parce que les auditeurs vont pouvoir nous interpeller et vous interpeller, et Bernard et Franck. Ça va être notre premier thème. A tout de suite.
RTL Midi.